meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert.
Avec Julien Tétain de Hitech Solutions à Douai, nous répondons, enfin, il répond à vos questions informatiques.
Non, pour répondre, à deux.
Moi, Windows, ça doit être livré avec une batte de baseball, hein, donc c'est pratique pour les mises à jour. Je ne dirai rien de plus. On est avec vous jusqu'à 10h, 03 20 55 89 89. Il se passe quelque chose avec votre ordinateur et plus, vous nous appelez, on en parle, on essaie de résoudre le problème. Nous mettons le cap tout de suite sur Gouzeaucourt. Bonjour Martine.
Bonjour Martine.
Bonjour Julien, bonjour Jean-Sébastien.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Bah ça va et vous ?
Bah oui.
Bah oui, ça va.
Super.
Bon, j'aurais voulu avoir une question parce que, pas trop compliqué bien sûr, j'ai un Android Xperia, j'ai énormément de photos et énormément de vidéos. Mm-hmm. Et j'aurais voulu mettre sur une clé USB que les vidéos de mes petites filles de la naissance jusqu'à 8 ans, rendez-vous compte ?
Oui, effectivement. Alors, sur l'ordinateur, d'abord, en fait, avant de les mettre sur la clé USB, il vaut mieux les copier sur l'ordinateur. Ben, c'est la première étape. Donc, normalement, votre téléphone était fourni avec un câble USB qui permet de le brancher sur un chargeur, si on veut, mais aussi sur un ordinateur. Vous l'avez, ce câble ?
C'est un câble bleu ?
Alors, je ne sais pas de quelle couleur il est, mais d'un côté, il y a une prise qui se branche sur le téléphone. Donc, souvent, c'est une petite prise USB-C, donc c'est une prise très très fine qui se met sur le côté du téléphone. Et après, de l'autre côté, il y a une prise qui ressemble à une prise USB classique qu'on vient brancher sur l'ordinateur. Vous avez quoi comme ordinateur portable,
c'est
fixe ?
C'est OK, d'accord.
Vous avez un ordinateur portable ou fixe ?
J'ai portable, c'est un Windows 10.
D'accord, ok. Alors, quand vous branchez le téléphone donc sur l'ordinateur, souvent sur l'écran, alors je vous décris une démarche un peu générique, hein. Peut-être chaque téléphone est un petit peu différent en fonction de sa version, mais je vous décris la démarche. Donc, vous branchez donc le téléphone sur le côté de l'ordinateur, donc sur la prise USB, et souvent sur l'écran de l'ordinateur, il vous demande si vous autorisez l'accès au téléphone pour l'ordinateur. Souvent, il y a un petit message qui apparaît sur l'écran du téléphone qui vous demande d'autoriser en fait l'ordinateur à se connecter au téléphone. Oui, c'est ce bruit-là, exactement. Et après, une fois que l'ordinateur reconnaît le téléphone, normalement, dans la petite barre noire de Windows 10, tout en bas, vous avez une espèce de dossier jaune. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre l'explorateur Windows. Une fois qu'on est dans l'explorateur Windows, il y a un petit menu sur la gauche avec mes images, mes documents. Il y en a un qui s'appelle ordinateur, qui est très pratique. Quand on clique dessus, on arrive sur une espèce de page où on voit le disque C, disque D si on en a plusieurs, et vous allez voir votre téléphone. Et en cliquant dessus, ça va ouvrir un dossier avec plein de petits dossiers dedans. Celui qui vous intéresse, vous, s'appelle DCIM. À l'intérieur, en fait, il y a vos photos et vos vidéos. Ce que je vous conseille, c'est de prendre tout le monde, c'est-à-dire toutes les photos et vidéos qu'il y a à l'intérieur, en faisant un petit clic droit, sélectionnez tout, copiez, et après vous allez coller ça dans un gentil petit dossier sur le bureau de l'ordinateur pour pouvoir coller toutes les photos et vidéos. Et là, vous pourrez faire le tri. Ça veut dire, en faisant un copier-coller, vous n'effacez pas les photos du téléphone, parce que si ça se passe mal, ça permet de recommencer. Et en collant dans un dossier de l'ordinateur, ça permet aussi de pouvoir faire un petit tri, de ranger, faire des dossiers, parce que je suppose que ça fait plusieurs années que vous avez des photos, des vidéos sur le téléphone.
Exactement.
Donc vous allez pouvoir les ranger tranquillement. Tiens, ça c'était l'anniversaire de la petite. Un peu plus tard, ce sera tiens, une visite à la mer, genre de choses. Alors ça, c'est une démarche un peu plus longue. Donc c'est-à-dire, vous branchez le téléphone. Une fois que vous avez branché le téléphone, vous allez fouiller le dossier DCIM du téléphone, copier, coller. Il y a une méthode moins longue, mais un peu plus laborieuse. Si vous voulez récupérer des vidéos bien précises, elle est un peu plus basique, qui pourrait peut-être vous convenir. Sur le téléphone, vous avez l'email de paramétrer ? Une messagerie, est-ce qu'il y a un email de paramétrer sur le téléphone ?
Oui.
Très bien. Est-ce que c'est une adresse Gmail ?
Oui.
Très bien. Et en fait, quand vous allez sur le téléphone, vous lancez votre adresse Gmail, vous allez dans... vous tapez votre... En fait, vous vous envoyez un mail à vous-même. Donc, à la personne que vous l'envoyez à vous-même.
D'accord.
Vous mettez, par exemple, vidéo 1. Et là, vous appuyez sur le petit trombone pour aller chercher la vidéo dans le téléphone. Si elle pèse pas trop lourd, en fait, vous allez pouvoir vous l'envoyer à vous-même. Ce qui va vous permettre d'éviter toutes ces démarches. Vous allez me dire, mais comment ça ? Bah, en fait, une fois que vous envoyez la vidéo, vous allez la recevoir sur l'email. Et l'email, vous l'avez sur l'ordinateur. et ce qui vous évite de brancher un câble et de brancher et de faire toute cette démarche.
D'accord.
Le problème, c'est que cette méthode ne fonctionne que pour, par exemple, des vidéos qui sont pas trop longues, qui durent moins d'une minute, parce que les vidéos sont assez lourdes. Ça peut marcher avec plusieurs paquets de photos. Donc, si vraiment vous n'avez rien compris à ce que je vous viens de vous raconter, vous pouvez vous les envoyer à vous-même par email. Ça vous évite de brancher le câble. Et puis, par exemple, si vous êtes un peu dans l'urgence, vous voulez sortir des photos pour les imprimer, bah, vous allez vous envoyer les photos à vous-même. Comme ça, une fois que vous avez réceptionné le mail, bah, de toute façon, vous l'aurez sur l'ordinateur. Il y aura juste à ouvrir les pièces jointes et puis à les télécharger pour les mettre dans l'ordi.
D'accord.
Donc, il y a deux méthodes. La méthode vraiment la bonne, c'est on branche le téléphone et puis on va copier-coller les photos sur l'ordinateur. Et après, vous aurez tout le loisir d'en faire un doublon ou un triplon, on va dire, sur une clé USB externe ou bien même un disque dur. Et la méthode un peu, on va dire...
C'est un peu plus long, quoi.
Non, justement, le Gmail, c'est plus rapide. C'est-à-dire là où vous allez sur le téléphone, faites, tiens, je m'envoie moi-même une vidéo, je vais sur le petit trombone et puis je me l'envoie. Donc forcément, comme le téléphone et l'ordinateur sont synchronisés sur la même messagerie, vous n'aurez pas besoin de brancher de câble et pas faire de manip.
Ah
sauf que ça ne marche pas pour les grosses vidéos ou quand il y a trop de pièces jointes.
Après, j'ai plus qu'à cliquer pour enregistrer sur la clé USB.
C'est ça.
Ah oui, bon, ça serait peut-être... pour mon âge, ça serait peut-être plus simple.
Alors après, il y a une troisième méthode. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre village. Peut-être qu'il y a des cours informatiques et allez voir la mairie s'il y en a quelques-uns. Peut-être vous faire aider pour faire une première fois avec quelqu'un. Hein. C'est aussi intéressant de faire ça.
On arrive à un âge qu'on n'a plus l'expérience. Hein.
Ah bah, chacun son métier, comme on dit.
C'est nouveau pour nous. Hein. Mais je vais vous dire, j'ai 500 photos. Mon téléphone.
Bah là, il faut pas le faire avec le Gmail. Hein. Là, il vaut mieux le faire copier-coller. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Vraiment, dans votre village, si effectivement il existe des cours informatiques, moi j'ai quelques clients qui effectivement rament un petit peu. Tiens, je sais pas faire.
Oui.
L'idée, c'est que vous soyez autonome par la suite, c'est que vous puissiez faire, parce que forcément, la petite fille va continuer à grandir. Il y a encore des photos à prendre, et forcément, bah il va falloir aussi encore vider le téléphone. Donc l'idée, c'est que non seulement vous voyez la personne le faire, mais vous apprenez à le faire. Comme ça, après, par la suite, vous saurez le faire vous-même.
Oui, c'est pas. Bah, je vais me renseigner. Ok.
Ouais. Voilà.
C'est pas mal. Ok.
Voilà, Martine.
Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir.
Très bon dimanche.
Bonne journée à Gouzeaucourt. À très bientôt sur France Bleu. Au revoir.
À très bientôt. Merci. Au revoir.
03 20 55 89 89. Vous nous appelez dès maintenant pour vos questions informatiques à Julien Tétin de E-Tech Solutions. C'est jusqu'à 10h. On peut remettre un coup de bruit de clé USB. Voilà, merci Vivien qui réalise l'émission. Les nuits sans Kim Wilde avec Laurent Voulzy à 9h15. Très belle journée. Les nuits sans Kim Wilde, Laurent Voulzy sur France Bleu Nord, il est 9h20. On est avec Julien Tétain de Hitech Solutions pour répondre à vos questions informatiques jusqu'à 10h au 03 20 55 89 deux fois. Bonjour Bernard.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour France Bleu, bonjour Julien.
Alors, qu'est-ce qui vous amène?
Bon, ce qui m'amène, j'ai un petit placard, un bébé.
Un placard belle, ouais.
Un ordinateur portable.
Un portable, ouais. Voilà. Environ depuis une dizaine d'années. Mais à chaque fois, j'ai Wi-Fi déconnecté parce que je me branche sur le réseau de mon beau-frère, dirais-je.
Oui.
Pour moi, avoir Internet. Et à chaque fois, mes Wi-Fi déconnectés. Et mon petit neveu par alliance, qui est ingénieur pour une marque automobile,
oui.
On n'arrive pas à réinstaller la Wi-Fi, malgré que j'ai racheté une petite clé Wi-Fi. Je ne sais pas si je peux le dire.
Oui, non, mais dites-moi.
Oui, c'est une TP-Lite. Et même avec la petite clé Wi-Fi, je n'arrive pas à accéder à Internet.
D'accord. Et là, il vous a réinstallé, si je lis bien, Ubuntu, c'est ça?
Voilà. Donc, j'étais en Windows
7.
Et puis maintenant, je suis sur Ubuntu. Et puis, rien à faire. Et puis, pas moyen de revenir
mais
sur Windows.
Est-ce qu'on voit... Oui, non, mais revenir sur Windows, c'est un peu compliqué. Je pense, en fait, ce qu'il vous a fait, c'est qu'il a installé Ubuntu parce que je pense que vous allez juste sur Internet faire un peu de recherche.
Oui, c'est ça.
Et comme l'ordinateur est assez ancien, il peut pas supporter d'autres systèmes. Donc, en fait, ce qu'il vous a fait, c'est ce que je fais des fois pour les écoles. En fait, on installe un Linux, parce qu'en fait, un Linux, ça fonctionne un peu où on veut, en fait, hein. Ça permet de reconditionner un ordinateur qui est un peu ancien. Et en fait, votre neveu, ce qu'il a fait, c'est qu'il, il vous a mis un système qui vous permet d'aller sur Internet. Et basta, en fait. Ça permet de faire un peu de courrier, mais pas plus. Alors, c'est bien parce que c'est hyper sécurisé, pour le coup. Le problème, c'est qu'effectivement, tout ce qui est périphérique Wi-Fi, c'est un peu plus compliqué à faire fonctionner. Concernant votre Wi-Fi, il suffit pas de brancher la clé, il faut aussi installer le driver pour que ça fonctionne. Là il y a un peu plus de boulot quand même. Sur Linux, en fait, il y a une question toute bête. Quand vous avez le Wi-Fi, vous voyez les Wi-Fi, le Wi-Fi de votre beau-frère, et puis après ça se déconnecte ou alors vous le voyez pas du tout?
Pas du tout.
Il y a rien, même avec la clé externe.
Pas du tout, oui.
D'accord. Alors, là, par contre, il faudra demander à votre neveu tout simplement d'installer les drivers Wi-Fi compatibles Ubuntu. Donc là, pour le coup, la petite clé TP-Link, gardez-la parce qu'elle peut vous être utile. Vu que l'ordinateur a 10 ans, il y a une grande chance que le driver Wi-Fi n'ait pas été développé pour Ubuntu, ou alors ça va demander beaucoup de bidouilles. Par contre, la petite clé TP-Link, le site internet de TP-Link, ils ont l'habitude. Il y a pas mal de gens qui utilisent Linux, et pour le coup, de mémoire, je crois qu'ils ont déjà développé les drivers qui vont avec.
D'accord.
Donc là, il faudra simplement que le neveu revienne à la maison. Donc vous pouvez lui faire un petit chocolat chaud, offrir un petit pain ou un petit bouillon le midi. Voilà, vous prenez excuse de l'inviter à la maison. Et puis vous lui demandez de réinstaller le driver, mais compatible Linux, avec la TP-Link, il n'y aura pas de problème. Alors par contre, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de désactiver l'ancienne carte qui est intégrée dans l'ordinateur portable pour pas que les deux, vous voyez, elles se rentrent en conflit, en fait, tout simplement. Parce que forcément, Linux va essayer de faire fonctionner la première, pas la deuxième peut-être. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et dernière peut-être hypothèse, peut-être que Linux a mal été installé, peut-être le réinstaller, ça peut être ça aussi. Tout simplement.
Tout à fait. Voilà. Mais au pire des cas, j'allais dire, Julien, je suis à 20 km de Douai et puis...
Venez, hein.
Mon ordinateur.
Non seulement je fais de l'informatique et du bon café,
vous pouvez venir.
N'ayez crainte, ça je le sais, j'ai souvent entendu que vous offrez le café dès que les personnes passent chez vous.
Fourni par un torréfacteur en plus de la région, vous voyez, donc on reste local.
En circuit court.
Puis, circuit court.
Dirais-je, j'ai l'avantage, ma nouvelle voisine n'est que la petite fille de Pépé le Mat.
Écoutez, vous êtes dans le noyau dur, vous, hein.
On est dans le noyau dur.
Bon. Non, mais juste à 10 mètres de chez moi.
Impeccable.
Le monde est petit.
Voilà. Bon, on n'allait pas lui parler d'Ubuntu, elle risque d'avoir la migraine, hein. Vous pouvez venir nous voir, mais vous avez une première piste avec votre neveu, donc éventuellement, s'il veut vous filer un petit coup de main, ça peut se faire déjà, et après, sans problème, vous êtes le bienvenu à la boutique.
Merci beaucoup, bien aimable à vous. Je vous souhaite un bon dimanche.
Bon dimanche à vous, Bernard.
Salut Bernard, bonne journée à Saint-Amand. Au revoir.
Encore merci pour toutes vos émissions.
Mais de rien, merci beaucoup.
03 20 55 89 89, on répond à vos questions informatiques jusqu'à 10h. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. C'est tout de suite sur France Bleu. We don't need another hero sur France Bleu Nord. 9h28, dans une minute, nous allons à Frévent pour une question smartphone.
Allez, elle est fraîche, ma coquille, elle est fraîche.
La fête de la coquille accueillera 20 000 personnes à Étaples les 29, 30 et 31 mars.
Bonjour les amis.
Tout le week-end, on va cuire la noix de Saint-Jacques.
Il y a à peu près 5 tonnes de coquilles de préparer.
Pendant 3 jours, Étaples se transforme en paradis.
Vous allez encore vous lécher les babines.
Et puis des concerts gratuits, bref, c'est pour toute la famille. La fête de la coquille sur le port d'Étaples les 29, 30 et 31 mars.
C'est un délice.
Ah oui, et en plus, Pépé le Mat en direct tout le week-end à 10h30 et 11h30 sur France Bleu Nord.
Est-ce que ça vous va ?
C'était parfait, Pépé.
Tout savoir sur le site pour les personnes âgées.gouv.fr. Quand on est âgé, on peut avoir des difficultés pour se déplacer. Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller dans un point d'information local. Comment vous aidez ces personnes à ne pas rester isolées ?
Eh bien, on les informe en prenant en compte leurs besoins et le lieu où elles habitent.
Et vous leur proposez quel type de solution ?
Ah, par exemple, des transports organisés par des mairies et certains départements pour les personnes âgées, ce qui leur permet d'aller au marché ou faire des activités.
Oui, d'accord.
Et les caisses de retraite ou des associations proposent aussi des services d'accompagnement à pied ou en voiture pour aller chez le médecin ou tout simplement se promener. promener.
Parfait. Et où peut-on se renseigner ?
Sur le site pourlespersonnesagees.gouv.fr.
Ceci est un message du service public de l'autonomie avec le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor ?
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais avancés. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci Cerise, je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
Il est 9h30.
Côté expert.
Avec Julien Tétain de ITEC Solutions à Douai, nous répondons à vos questions informatiques jusqu'à 10h. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal. Monsieur.
Vous êtes à Frévent, vous avez une question concernant votre nouveau smartphone, expliquez-nous.
Oui. Alors en fait, j'ai investi dans un nouveau téléphone, mon ancien avait 4 ans, oui. Il a bugué deux fois, bon bref, j'ai eu peur de perdre mes éléments, mes photos, mes contacts, voilà. Donc tout va bien.
Le transfert s'est bien passé, ok.
Bah, le souci, c'est que je ne sais pas comment me débarrasser de l'ancien. Je suis extrêmement vigilante, méfiante avec Internet, que j'utilise comme tout le monde, oui. Pas mal, bon voilà. Mais sur les téléphones, il y a tout, quoi. Je veux dire, il paraît qu'un expert, entre guillemets, pourrait récupérer des codes et tout ça. Donc, je suis passée par Orange. Orange m'a proposé de reprendre, j'ai dit non. Je ne sais pas comment m'en débarrasser en toute sécurité. Voilà. Alors, ma question.
C'est une bonne question pour le coup, parce qu'il faut quand même y penser. Ouais.
Alors en fait, le smartphone, en fait, c'est une possibilité de le réinitialiser. D'accord ? Mm-hmm. Donc normalement, dans les menus, c'est le petit engrenage. Vous savez, c'est dehors sur le téléphone, c'est toujours l'engrenage.
Oui.
Donc c'est le menu paramètres, et normalement, tout en bas, vous avez la possibilité de faire un effacement, si on va, ça dépend des téléphones, effacer ou réinitialiser totalement le téléphone. Donc si vos données ont bien été transférées, que le nouveau téléphone a tout ce qu'il faut, oui. Qu'il y a vos codes, que vos contacts, vos SMS, oui. L'ancien, oui. Vous pouvez le réinitialiser. D'accord. Éventuellement, vous pouvez le faire deux fois d'affilée, le réinitialiser deux fois, comme ça, moi, d'accord. Ça efface deux fois les données.
Okay.
Oui, si votre question c'est, est-ce qu'on peut encore récupérer des choses ? Oui, on peut récupérer des choses.
Mm-hmm.
On va s'embêter à récupérer des choses si vous êtes la personne qui possédait les codes nucléaires, si vous avez gagné des millions, des milliards, et puis que vous êtes Elon Musk.
Si vous êtes recherché par le KGB, quoi.
Vous êtes recherché par le KGB. Ce que je veux vous dire par là, c'est, Pascal, en gros, les gens vont se donner la peine de récupérer vos données, malgré que vous ayez effacer le téléphone, si vraiment il y a un intérêt. Si votre question c'est est-ce que la personne lambda qui viendrait à piocher votre téléphone dans le bac de téléphone de la boutique Orange du coin pour aller fouiner votre téléphone pour récupérer les codes, ça demande des compétences tellement extrêmes que effectivement il ne pourra pas les récupérer, c'est très compliqué. Donc faut
parce
vraiment.
En fait, ce à quoi je pense, enfin, j'ai tout sur le smartphone, bien entendu, on va dire entre guillemets comme tout le monde.
Oui.
Je sais pas, j'ai les banques, j'en sais rien.
Alors
j'ai Amélie.
Il faut comprendre quelque chose, c'est quand vous aurez réinitialisé le téléphone. Mm-hmm. Oui, il y aura des traces de l'application, mais il faudra retaper les codes, et ça veut dire qu'il va falloir vous contacter ou contacter votre banque. Donc ils ne pourront pas.
On ne peut pas récupérer les codes secrets, je sais pas quoi.
Une application bancaire quand elle est installée sur un smartphone. Elle va prendre plusieurs paramétrages. Elle va prendre le téléphone, elle va regarder si le téléphone n'a pas été réinitialisé, les données sont cryptées. Donc c'est un peu compliqué pour un pirate de venir aller pomper des données sur votre banque. Donc j'ai envie de vous dire, il faut le réinitialiser, le
d'accord.
téléphone, totalement, pas partiellement, mais totalement. Et c'est simple, quand vous avez réinitialisé totalement, quand vous avez essayé de démarrer le téléphone, vous arriverez sur l'écran d'accueil, comme quand il était neuf, sorti de sa boîte.
D'accord.
Ça, une fois que c'est fait, vous éteignez le téléphone, et là, vous pourrez le donner en recyclage. Il faut surtout pas le jeter dans la nature, parce que c'est plein de polluants.
C'est pour ça, on dit tous les jours, il y a des millions de téléphones qui traînent dans le fond des tiroirs.
Exactement. Et à ce moment-là, vous passez par soit Orange, soit d'autres organismes, pour pouvoir recycler votre téléphone. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passer, ils vont changer la batterie, réinitialiser eux-mêmes via un logiciel le téléphone pour être sûr qu'il n'y ait aucune trace de l'ancien propriétaire.
D'accord.
Donc même eux repassent une petite couche derrière pour vérifier que tout
d'accord.
est conforme. Voilà.
Ok. Bon, bah écoutez, je vais faire comme ça parce que j'ai pas envie de le garder là. Enfin, voilà,
vous avez raison,
vous voulez la rassurer.
Bah oui, puis il paraît qu'on peut récupérer des métaux précieux, je sais pas quoi. Là,
ouais, bref, non, c'est bien, il faut, des choses. Il faut le faire.
Mais 4 ans, c'est pas très vieux, hein. Ils peuvent même le reconditionner, peut-être changer les pièces qui dysfonctionnent, hein, simplement.
Ouais, d'accord.
Voilà. Okay. Donc c'est un bon geste, Pascal.
Est-ce que je peux vous en poser juste une petite
question? Très rapidement, c'est du monde, hein,
très
Pascal.
Rapidement. J'ai paramétré avec la voiture, enfin bref, et la voiture ne récupère pas les contacts. Est-ce que les contacts, il doit avoir un paramétrage particulier pour que ce soit reconnu, enfin récupéré par la voiture?
Alors, c'est quoi, un Android, votre téléphone ?
Oui.
Alors, Android, il faut passer, peut-être faire une mise à jour de la voiture elle-même, parce que votre smartphone est vachement récent, donc peut-être qu'il a besoin d'une mise à jour côté voiture.
Ah, d'accord. Okay.
Peut-être. Donc, si la voiture est récente, allez voir au garage.
Je vais aller chez le vendeur de voiture.
Exactement.
Ce sera en même temps qu'il évacue le téléphone.
Demandez un café en même temps, hein, c'est offert.
Oui, non, mais j'ai pas de souci là-dessus. Bon, voilà, tout va bien.
Voilà, ils sont gentils. Bah,
ok, ben, merci beaucoup.
Bonne journée, Pascal. Bon dimanche.
Continuez comme ça, je vous écoute toute la journée.
Ah, ça fait plaisir.
Merci, Pascal. Salut.
Merci, bon dimanche à tous.
Bon dimanche.
Merci.
On est avec Juliette Tétain, on répond à vos questions informatiques. Bonjour Régine.
Bonjour Régine.
Oui, bonjour, je vous entends faiblement, mais ça va, j'ai dû couper le haut-parleur.
Bon. C'est mieux, je pense. Vous êtes à Marc en Calaisie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
Voilà, j'ai une question. Quand on prend une photo avec le téléphone,
oui.
Elles s'en vont directement dans Google Photos.
Oui, c'est parce que
donc
j'ai paramétré.
Donc quand elles sont dans Google Photos, si je supprime une photo à un endroit, ça supprime dans les autres appareils où Google a enregistré la photo que j'ai prise.
Alors oui, parce que c'est synchronisé. Alors, le problème, c'est que j'ai pas votre téléphone dans les mains, mais je vais vous donner deux pistes. Vous pouvez faire, à la limite, vous pouvez faire un test tout bête. Hein. Prenez une photo, je sais pas, de votre table. Vous attendez qu'elle se synchronise avec Google Photos. Vous supprimez dans Google Photos la photo et pas dans le téléphone. Et vous voyez si elle disparaît du téléphone. Et si elle disparaît du téléphone, c'est qu'effectivement la synchronisation est dans les deux sens. Parce qu'on peut, par exemple,
oui. Oui, là, quand je supprime, si je suis dans Google et que je supprime la photo,
voilà.
Ça s'enlève de ma tablette, de mon ordinateur.
Voilà, c'est ça.
Disparaît de Google Photos.
C'est ça,
en fait.
C'est ça. En fait, Google Photos, je vous donnerai un conseil éventuellement, parce que j'ai pas mal de clients qui sont embêtés avec ça. C'est très bien parce que ça permet d'avoir des appareils synchronisés sans avoir besoin de s'embêter avec des copier-coller à droite à gauche, comme tout à l'heure avec la dame. Là, en l'occurrence, effectivement, faut que le compte Google Gmail qui gère le compte Google Photos soit super protégé avec la double authentification, parce que si quelqu'un arrive à rentrer dans votre compte, bah, il peut bazarder toutes vos photos, et du coup, là, c'est embêtant. Ce qu'il faudra faire, c'est bien vérifier que vous avez la double authentification sur votre compte Gmail. Ça, faites-le plutôt avec un ordinateur pour le vérifier. Vous allez sur Google Chrome, vous connectez au Gmail, et puis dans Sécurité, vous regardez si la case double authentification est bien verrouillé. Et pour Google Photos, je vous conseillerais d'aller sur Google Photos, toujours sur un ordinateur, et de télécharger toutes les photos une fois de temps en temps. Faites une copie un peu manuelle. C'est ça. Ben voilà, si vous êtes déjà une bonne élève, faites une copie en dur, comme ça, le disque dur, s'il n'est pas connecté à l'ordinateur, personne ne peut supprimer les photos. Voilà.
D'accord, oui, forcément. Là, il est carrément indépendant.
Par contre, il peut arriver, alors sur votre téléphone, dans Google Photos, vous pouvez demander à ce que les photos montent, alors depuis le smartphone simplement, montent sur Google Photos, mais que si c'est supprimé de Google Photos, ça ne supprime pas du smartphone. Ça peut se faire aussi.
Ah.
Voilà. Mais en l'occurrence, c'est un paramétrage un peu complexe à mettre en place. Ce que je vous conseillerais, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire faire une copie de temps en temps. Vous faites ça une fois par mois. Vous exportez les photos une fois de temps en temps pour dire d'avoir une copie en local sur votre disque dur externe. C'est parfait.
Oui. Oui. Par contre, j'ai un autre problème aussi.
Oui.
Avec le téléphone, s'il est saturé, faut que j'enlève des photos.
Ben justement,
si je supprime Google Photos, c'est pareil, ça va me supprimer de mon ordinateur aussi.
Non, justement, si vous téléchargez les photos sur l'ordinateur, je dis bien télécharger les photos. C'est-à-dire dans Google Photos, alors j'ai pas l'interface en tête, mais il me semble qu'on peut sélectionner tous les dossiers, toutes les photos, et à la fin faire un téléchargement. Ça va vous faire une espèce de zip, donc c'est un fichier unique qui va vouloir se télécharger sur votre ordinateur. Et en fait, il faudra simplement décompresser, vous allez récupérer toutes les photos. Une fois qu'elles sont copiées sur le disque dur, on peut pas les supprimer. Elles sont plus synchronisées, elles n'ont plus rien à voir avec Google.
D'accord.
Donc, j'explique
donc,
bien.
Si je fais un dossier à part.
Sur un disque dur.
Et là,
voilà.
Ça ne peut plus jouer.
Alors,
là-dessus.
Comme on parle de photos, Régine, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que c'est des photos qu'on ne peut plus refaire, hein, des souvenirs. On prend la photo une fois. Si on a un petit enfant qui a son anniversaire, on ne peut pas lui demander de reposer pour
les
photos.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, c'est des souvenirs qui sont un peu uniques. Quand c'est un peu délicat comme ça, le conseil que j'ai à vous donner, ça serait quand même de vous faire accompagner par quelqu'un qui est quand même à l'aise avec ça. Donc, comme ça, la personne, bon, je sais pas, ça peut être un jeune de la famille, ça peut être un neveu. Vous voyez, tout à l'heure, on entendait le neveu qui avait installé l'ordinateur d'un auditeur. Demandez à quelqu'un qui est un peu plus à l'aise avec les technologies de ce type-là, de vous accompagner. Et puis, limite, quand vous avez fait le test, alors téléchargez vos photos, mettez ça sur un disque dur externe, et demandez à une personne pour voir sur son ordinateur si elle voit bien les photos du disque dur. Comme ça, vous êtes sûr que les photos sont exploitables. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les copiez sur le disque dur, vous prêtez le disque dur à quelqu'un. Exactement. Comme ça, vous êtes sûr que les photos sont bien sur le disque dur et qu'elles n'ont plus rien à voir avec le compte Google, tout simplement.
Oui, et là, je ne peux pas, par exemple, laisser les photos sur mon ordinateur dans Google Photos. Et
alors attention,
de mon
il faut bien comprendre
parce que mon téléphone est
chargé. Je pense que vous faites l'amalgame entre. En fait, c'est pas parce que c'est ouvert sur l'écran de l'ordinateur qu'elles sont dans l'ordinateur. Qu'on soit bien clair. Si vous êtes dans Google
Photos,
quand vous êtes dans Google Photos sur l'ordinateur, elles ne sont pas sur l'ordinateur. Il faut les extraire de Google Photos. Ça va vous faire un fichier lourd avec toutes vos photos à l'intérieur. Et c'est ça qu'il va falloir extraire, en fait. Quand vous êtes sur l'interface Google, il va falloir lui demander d'en fait d'extraire toutes les photos et de les copier sur l'ordinateur physiquement. Voilà, c'est très
d'accord.
Différent. C'est pour ça que je vous dis,
oui,
vaut
je
mieux...
Je peux créer un dossier dans l'ordinateur.
Voilà, c'est ça. Il faut créer un dossier dans l'ordinateur.
Dossier.
Et puis vous demandez à Google Photos de vous envoyer une copie pour le mettre dans ce dossier. Tout simplement. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont justement tous ces services cloud, c'est génial parce que là, justement, Jean, c'est ce qu'elle nous explique. C'est une application qui permet, c'est vrai qu'on a souvent une tablette, un ordinateur et puis un smartphone. Hein. Aujourd'hui, c'est effectivement ces trois appareils qu'on peut facilement avoir simultanément. C'est pratique d'avoir un Google Photos ou bien d'avoir un iCloud qui est synchronisé sur plusieurs appareils. Par contre, effectivement, ça reste du cloud. Donc, ça veut dire que rien de tel de faire une copie physique et locale pour être sûr que vos données soient en sûreté. Voilà.
D'accord, parce que je les ai mis sur un disque dur externe.
Oui.
Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est en les mettant dans un dossier indépendant de Google Photos.
Oui.
Donc là.
Ça risque rien, c'est plus synchronisé. Voilà, à part si le disque dur tombe en panne, vous avez Google Photos.
D'accord.
Et si Google Photos est piraté, vous avez le disque dur. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme un double. C'est comme un double de clé de maison. Voilà, si vous perdez une clé, vous avez l'autre.
D'accord.
Tout simplement.
Bien. Ben, merci beaucoup pour les renseignements.
Et faites-vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. C'est même conseillé.
Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup pour
bonne
votre
journée, Régine.
Bonne journée, Régine.
Beaucoup de gens.
Avec plaisir. Bon courage à vous.
Bonne
à très bientôt sur France Bleu. Les chansons de votre vie, tiens, une belle histoire. Ça, c'est les chansons que nous aimons mettre en avant régulièrement sur France Bleu Nord. Michel Fugain sur France Bleu. Et on continue de parler informatique dans 3 minutes.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute doute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés.
C'était fini le jour de chance.
Ils reprirent alors chacun leur chemin.
Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main.
Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Michel Fugain, une belle histoire sur France Bleu Nord. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez découvrir sur notre site internet francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3 notre nouvelle web radio 100% chansons françaises, avec donc des tubes français des années 80, 90 et 2000 et des nouveaux talents de notre région. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment sur notre web radio France Bleu, il y a Viva la Vida de Michel Fugain. Comme quoi, hein, les choses sont bien faites. C'est parce qu'on vient de passer Michel Fugain. On est avec Julien Tétin de Hitech Solutions à Douai pour répondre à vos questions informatiques. Il vous reste une petite dizaine de minutes pour nous appeler. Bonjour Thierry.
Bonjour, oui, Thierry. Bonjour.
Vous appelez de Bourbourg. Qu'est-ce qui se passe avec Mozilla Firefox?
Oui, voilà, avec Firefox, oui. J'ai Mozilla. Oui. Quand je le démarre, j'ai plein de petites icônes sur la droite qui met la publicité. Il y en a plein qui...
Ouais, ça fait des petits carrés qui se lèvent et qui montent.
Des petits carrés sur le côté à droite.
Ouais. D'accord, ok.
C'est pénible.
Alors, ce que vous avez, c'est pas vraiment de la pub, c'est des notifications. Alors, c'est un peu comme quand on installe une application, ouais, sur le smartphone. Ça vous fait toutoung, il y a un nouveau film, ou toutoung, il y a, ouais, un nouvel article.
C'est ça.
Voilà, et c'est un peu agaçant. Et ça, alors, pour le coup, ça vient simplement, c'est que quand vous avez la petite case, vous savez, en haut à droite, accepter des notifications du site internet. Et des fois, on est un peu agaçant, on dit oui, allez, ouais, m'embête pas.
Ouais.
Laisse-moi tranquille, j'ai envie d'aller sur le site. Et en fait, ce que vous avez accepté, c'est une notification. Alors, les notifications sur Firefox, en fait, ça se trouve dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, le problème, c'est que le paramètre de Firefox est un peu complexe, hein, c'est un peu des catégories qui se rangent. Vous cherchez simplement notification. Voilà. Dans paramètres. Alors, le paramètre, ça va se chercher en haut à droite, ça a des petits points, là, des petits tirés. Mm-hmm. Sur Firefox, c'est pas des petits points, c'est des tirés. Et ça vous fait un menu, et là, vous allez chercher paramètres. Et dans paramètres, vous avez... Voilà, notification, et là-dedans, faut supprimer en fait toutes les notifications des différents sites qui se sont un peu tapés l'incruste, sans, bon, en vous demandant, mais pas de la bonne manière. Voilà, on va être gentil comme ça, et donc vous supprimez simplement les sites. Alors, ça peut être un site de pêche, ça peut être un site, alors, sous fonction de vos appointances, hein, si vous aimez bien regarder sur Boncoin des annonces, hein, parce que vous aimez bien troquer, voilà, il faut supprimer en fait tous les sites qui vous agacent, qui n'ont rien à faire là-dedans, et comme ça, vous aurez moins de publicité sur le bas à droite.
Il n'y a pas un add-on avec Mozilla pour dire de...
Si, alors, faut pas confondre. AdBlock, ça permet de bloquer les encarts publicitaires qui sont mis naturellement sur leur site. Par exemple, je prends un exemple bête. Vous allez sur le site, bah, justement, du Boncoin ou même de Météo France. Ils font tourner la plateforme parce que, justement, là-dessus, il y a pas mal de publicité. Et en fait, on peut mettre AdBlock. Donc là, il faut le télécharger depuis le site Mozilla. Hein, surtout, n'allez pas le chercher sur autre chose. Comme ça, vous aurez la bonne application. Ça bloque les encarts publicitaires. Là, ce que vous avez, c'est des notifications au démarrage de votre navigateur.
Ouais, c'est pas pareil.
On est bien d'accord, c'est que vous démarrez en fait une page, vous n'avez encore rien fait, il y a déjà la pub. Voilà. Ça s'appelle les notifications. Ouais. Et du coup, faut pas les réaccepter, hein, quand ils vous proposent. Prenez le temps de lire la petite bulle quand ça arrive, qui est différente de enregistrer le mot de passe. Hein, c'est pas la même. Et vous refusez tout simplement.
D'accord. Okay.
Voilà, voilà.
Pour venir ce matin, vous parliez des mots de passe aussi, j'ai entendu.
Oui, tout à l'heure, effectivement, il y a une heure, ouais, avec les fuites de coordonnées.
Alors, ce que j'ai mis, moi, c'est... j'ai mis Bitwarden, c'est ça qu'on dit, on dit comme
ouais,
ça.
Oui, alors ça, c'est un gestionnaire de mots de passe. Alors, pas
voilà.
Confondre.
Et, non. Alors, mais c'est... par contre, il ouais. Génère des mots de passe aussi.
Oui, alors très costaud, ouais, les mots de passe, ouais, voilà. C'est badass. Alors, si vous avez la version gratuite, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Impeccable.
Oui,
alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est, elle est pas sur le cloud, elle est hébergée sur l'ordinateur, mais pensez quand même à prendre un petit carnet, vous savez, un carnet papier, puis à la limite, les mots de passe, le best-of des 10 mots de passe les plus importants, ça va être les impôts, ça va être la sécu, ça va être la mutuelle, notez-les. Mais par contre, très très bonne initiative, Thierry, Bitwarden, c'est gratuit, vous pouvez l'installer sur l'ordinateur, et c'est un gestionnaire de mots de passe qui peut générer des mots de passe très sécurisés. Très très bon.
Ah, je le trouve très très bien, hein. Je le trouve vraiment très très bien. J'ai,
bon produit.
Vraiment tout bien. Mais vis-à-vis de mes impôts, tout ça, je ne l'ai pas mis dessus, hein, comme vous dites.
Alors après, vous le notez sur un carnet après, à côté,
ouais,
avec le numéro
fait,
fiscal, voilà, vous mettez ça sur le côté, comme ça, ou le carnet, on peut pas le pirater, hein, ça reste inaccessible.
Voilà.
Mais bon, pirater un carnet des accès des impôts, je vois pas trop l'intérêt.
Ouais.
Voilà.
Bon ben voilà, je vous remercie.
Avec merci plaisir Thierry, bonne journée à Bourbourg, à bientôt.
Je vous souhaite une bonne journée, merci,
vous aussi.
Au revoir, avant d'accueillir Dany qui est en marche pour une dernière question, je reviens un peu sur ce qu'on évoquait, les notifications, les cookies notamment, parce qu'on a souvent, quand on va sur les sites internet, autoriser les cookies.
Exactement.
Voilà. Moi j'ai l'impression, même sur les sites où on va régulièrement, on doit toujours autoriser les cookies.
C'est normal, parce qu'en fait il y a eu la RGPD, hein, donc qui régit un peu la gestion des données, et en fait les cookies depuis toujours, en fait, ils servent à faire fonctionner les sites.
Ouais.
Quand vous allez sur un site d'achat en ligne, on vous dit tiens, je vais acheter des carottes, je vais mettre des pommes de terre, mais vous quittez le panier entre temps pour aller chercher d'autres produits.
Ouais.
Mais il faut bien enregistrer ce qui est déjà dans le panier.
Tout à fait.
Et bien, ça, c'est le cookie qui est déposé sur votre ordinateur.
D'accord.
Sauf que les autres sites internet ont accès à ce même dossier parce que c'est un dossier un peu public. On n'a pas les noms, prénoms des gens, mais on a les articles qu'ils ont ajoutés dans le panier. Et bien, imaginons si vous changez de crèmerie, on va dire, vous allez sur un autre site internet, il a vu que vous avez été sur un site pour faire votre drive dans lequel vous avez acheté des carottes, vous avez ajouté des carottes, des navets, et il va vous proposer des ustensiles de cuisine. Mais il vous espionne pas en tant que tel.
Non, c'est pas le côté espionnage, mais c'est vrai qu'on doit tout le temps cliquer sur autoriser les cookies ou les refuser.
C'est obligatoire parce que ces cookies qui normalement servent à faire fonctionner les sites internet, ce qui arrive c'est qu'effectivement d'autres sites en abusent un petit peu, et donc l'Union européenne a mis en place donc la RGPD qui permet de régir un peu l'utilisation de ces données et dire voilà, maintenant vous allez prévenir les internautes que quand vous allez sur le site, vous utilisez les cookies.
D'accord, voilà,
tout simplement.
Merci Julien. Bonjour Dany.
Bonjour
Dany.
Vous êtes à Meursin, c'est vous qui allez clôturer l'émission, vous avez un souci avec votre imprimante.
Voilà,
tout qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, j'ai énormément de mal à numériser mes documents.
D'accord. Allez, au hasard, une imprimante HP?
Oui, c'est Epson 350.
Alors, Epson, ouais.
Et en fait, quand je vais sur numériser, donc numériser mes documents, donc il me met numériser vers ordinateur, alors soit JPEG, ou PDF.
D'accord.
Ensuite, j'ai numérisé vers ordinateur et email.
Alors, je vais vous la faire courte. Là, vous êtes sur l'écran de l'imprimante, c'est ça?
Voilà, c'est
ça. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de numériser depuis l'ordinateur lui-même, directement? C'est-à-dire, vous mettez votre document?
Je n'y arrive pas.
Très bien. Est-ce que l'imprimante est reliée avec un câble, avec l'ordinateur? C'est Wi-Fi?
C'est Wi-Fi direct.
Bon. Alors, sur Epson, je vais vous donner deux démarches possibles, éventuellement, pour vous dépatouiller un petit peu.
Oui.
Le Wi-Fi, c'est toujours très, très, très galère avec les imprimantes.
D'accord.
Je vais vous le dire, sur Epson, les boutons, c'est très rare qu'ils fonctionnent sur l'imprimante. Donc, oubliez-les, c'est pas la peine.
C'est pratique.
Il y a qu'une marque, en général, où ça fonctionne plus ou moins bien, c'est... vous avez Canon, ou bien vous avez Brother, où les boutons, bon, ça va, mais ça... Après une mise à jour, ça fonctionne plus. Donc, vraiment, la méthode pour scanner efficacement avec les imprimantes de grand public, c'est de scanner depuis l'ordinateur. Donc souvent vous avez, alors il faut essayer de chercher le logiciel qui s'appelle Epson Scan sur votre ordinateur.
Epson Scan, oui.
S'il n'existe pas, je vous invite à aller sur le site d'Epson. Oui. Vous allez dans la rubrique support. Alors je dis bien s'il n'existe pas. Si vous tapez Epson scan et puis que vous trouvez rien, bon bah laissez tomber. Vous allez sur le rubrique support Epson scan, support, et vous tapez le nom de votre imprimante. Souvent c'est ET-2001. Bon, je vous donne une référence au hasard. Hein. Oui. C'est collé sur la façade de l'imprimante. Et là vous allez chercher dans les drivers, dans les logiciels qui servent à faire fonctionner l'imprimante, le fameux Epson scan. D'accord. Vous l'installez. Lui va chercher l'imprimante dans votre réseau Wi-Fi tout seul comme un grand. Oui. Dès qu'il la trouve, vous suivez simplement les oui, non suivants. Voilà, vous faites votre tambouille. Et après, à la fin, vous aurez un logiciel sur l'ordinateur qui permettra de piloter l'imprimante à distance depuis l'ordinateur. Donc là, en gros, vous mettez votre papier sur l'imprimante, vous lancez le fameux logiciel Epson Scan, et vous allez lui dire, bah écoute, moi je veux un document, un PDF. Parce que si vous envoyez des documents, là, l'administration, elle aime bien les PDF.
Il préfère PDF.
Et du coup, ça va lancer le scan à distance, ça va vous envoyer le scan directement sur l'imprimante, il n'y aura plus qu'à l'envoyer.
D'accord.
Ça, c'est une première astuce, et éventuellement, si rien de tout ça fonctionne et que votre document est très urgent, vous pouvez aussi installer un scan sur le téléphone.
Oui.
C'est un petit logiciel. Alors, vous avez quoi comme téléphone ?
Samsung.
Alors, je connais pas tous les logiciels sur les Samsung, mais vous tapez scan document, c'est des logiciels gratuits. Et du coup, ça permet de numériser le document depuis un smartphone. Ça fait des petits effets qui font que le document, on peut le scanner de cette manière. Voilà.
Je pense
qu'on l'a perdu, Dany.
Dany était tombé en une sorte de double appel. Donc, Dany, si vous nous entendez, vous pouvez récupérer l'émission sur FranceBleu.fr. Elle va y être dans les minutes qui viennent. Vous allez juste à la fin du podcast. Et puis Dany, vous êtes avec nous?
Je crois qu'on était coupé un petit moment.
C'est ce que je disais justement, au cas où vous nous entendiez, vous n'avez peut-être pas entendu la réponse, mais l'émission qu'on vient de faire est en direct et elle est sur notre site internet dans les minutes qui viennent.
Voilà, puis ça peut servir à tout le monde.
Vous allez pouvoir réécouter la réponse de Julien, puisque là nous arrivons à la fin de l'émission, donc on va pas pouvoir tout réexpliquer, mais en tout cas elle est dans quelques minutes sur notre site internet. Dany, en tout cas, il y a des solutions, ça devrait pouvoir s'arranger, puis si dans 15 jours vous n'avez pas trouvé de solution,
n'hésitez pas.
Vous rappelez, et puis avec Julien, on essaye de trouver une autre solution.
Voilà.
D'accord. Sinon, je pensais aller à Douai directement, il faut que je prenne l'imprimante.
Non, vous ne pouvez pas vous déplacer parce que l'imprimante est branchée en Wi-Fi avec votre box.
Voilà.
Il faut forcément être sur place pour le dépanner.
D'accord, bien. Je vous remercie beaucoup.
Bonne journée à vous, Dany. À très bientôt à Au revoir. Julien, merci beaucoup d'être venu.
Ce fut un plaisir.
On se retrouve vous revenez dans 15 jours. Ce sera avec normalement Emmanuel Dubois.
Pas de problème.
Bon week-end. Dimanche prochain, c'est Bertrand Bonnes, comportementaliste canin, qui répondra aux questions sur le comportement de votre chien.